Nous sommes mercredi 4 avril 2018, Gameblog est toujours vivant mais No Life va mourir. Vous écoutez le Dojo Bar.
Vive le bar!
C'est le deuil.
Voilà, vous venez d'entendre Antix. Nous sommes tristes, c'est le deuil.
Monde de merde.
Malheureusement, ça va être le mot de la soirée. Nous sommes un peu tristes. Ah putain, connard de post-90. Même si toi, tu as connu No Life, et peut-être même mieux que nous, finalement. Parce que
et
moi,
tu le sais pas.
Quand No Life a été lancé, j'étais déjà vieux, puisque je prenais mon premier emploi.
Ah putain, ouais.
Et ouais, parce que... alors, c'est 2006 ou 2016 ou 2008 ou 2009 C'est 2009, je
2000.
Crois.
2007, 2000, je sais plus. Tu
de vois, mémoire,
moi,
voilà.
J'ai eu 2007. 2007 moi.
Moi, j'ai décroché.
Oui, ça fait 11 ans, 2007.
J'ai décroché mon CDI en 2007. Et en fait, c'est quand je me suis installé avec ma femme, qui n'était pas ma femme à l'époque, que ma femme a dit « Ah, je voudrais bien avoir la télévision. » Et que donc, on a pris un truc genre triple play de je sais pas où, que ça marchait très 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 mal. Et en zappant, paf. Mais on racontera ça tout à l'heure. Voilà, donc vous l'avez entendu, vous l'avez vu sur Twitter, nous allons parler de No Life, qui malheureusement s'arrête après 11 ans de, j'ai envie de dire, de bons et loyaux services, mais c'est vrai que ça fait une bonne année et demie maintenant que ça bat quand même sévèrement de l'aile, et que c'est très compliqué pour eux, que c'est très compliqué pour les
spectateurs
aussi.
Ils ont tenu la baraque, les salauds.
Ils ont tenu la baraque, je veux dire, tous les ans, ils se disaient qu'ils allaient crever dans les 6 mois, et finalement, tous les ans, ils arrivaient à rebondir, mais là, c'est la fin de la fin de la fin, c'est vraiment fini, fini, fini... À moins d'un miracle, et là on parle vraiment d'un vrai miracle, parce qu'il faudrait qu'il y ait un millionnaire qui arrive et qui dise pas de problème, je rachète tout.
Elon Musk, si tu nous regardes.
Alors Elon Musk, au lieu d'envoyer des putains de Tesla dans l'espace, fait quelque chose d'utile de ta vie.
Genre envoie-nous des Tesla à nous, on en a besoin.
Ouais, c'est ça. Alors, quoi que dans Paris, je sais pas où je la garde. Alors.
Sur un emplacement de.
Dans ton cul, allez, on enchaîne.
Ouais. Bref. Nous allons d'abord commencer par le tour de table de l'actualité, et une fois n'est pas coutume, je vais laisser Mecton taper sur Webedia, notre sport favori à taper sur Julien Chies, taper sur Gameblog, taper
on
sur Webedia.
On aime bien taper sur les autres.
On aime bien taper sur les méchants, c'est pour ça qu'on n'a jamais tapé sur No Life.
Tout à fait. Non, il ne méritait pas. Bon bref, ce week-end, Poissy, événement FIFA Clash Royale, donc orienté, je pousse l'e-sport. Si, Clash Royale e-sport, il n'y a pas de souci. Bref.
Et là, c'est le drame.
Voilà. Donc, ouais, ils avaient organisé ça relativement bien, quoi, une petite tête d'affiche, Dax. Alors, je sais pas si on dit Dax ou Dax, et pour le coup, la scène FIFA, je m'en fous un peu, je dois avouer. alors, champion du monde de FIFA. Bon, ça se respecte.
Mais je suis sûr que je lui mets une branlée, voilà.
Ouais, j'en sais rien. Alors, le problème, l'event a fait un bide magnifique, parce que d'après... Alors, je sais pas si c'est d'après les orgas ou les syndicats, mais il y aurait juste une cinquantaine de personnes, quoi.
Alors, c'est 50 d'après la police, 5000 d'après les manifestants. Hein,
d'accord. Bon, alors tout ça, eh bien, c'est triste pour les orgas, faut l'avouer. Ce qui est encore plus triste, c'est que l'event aurait coûté entre 200 et 340 000 euros.
D'argent public.
D'argent public, donc de la région Île-de-France. Alors ce serait facile de dire que c'est la faute de Madame Pécresse, blabla. Bon, je pense qu'elle a juste signé le mauvais papier parce qu'elle a suivi les conseils donc de Webedia. Donc,
le siège est à Levallois-Perret, rue d'Alsace. Vous pouvez aller leur jeter des œufs si vous voulez.
Voilà.
Et il y a Squeezie en plus sur une pièce de coups.
Pour une boîte qui se voulait donner de bons conseils, tout ça, ils ont juste tapé le week-end où c'était pas possible, quoi. Demi-finale de League of Legends, donc un Fnatic Team Vitality, donc une grosse affiche pour ceux qui suivent un peu, et la Gamers Assembly à Poitiers. Donc il y avait aucune chance que le truc rameute des gens. Voilà, bon, bref.
Alors, erreur de calendrier, erreur de casting, défaut de conseil, erreur volontaire,
communication foireuse, enfin bref, ils ont détruit Allociné. Ils ont détruit Allociné, détruit jeuxvideo.com, je les aime pas, je veux qu'ils meurent.
Alors jeuxvideo.com n'a jamais été très bien, du coup le détruire était peut-être.
Moins, c'était pas aussi putaclic que ce que c'est devenu aujourd'hui.
Ben, c'est-à-dire que. En fait, les anciens de jeuxvideo.com, ceux qui ont fait Extra Life. qui est un très bon site web dans lequel effectivement on voit que les mecs sont beaucoup moins contraints de ce qu'ils font, bah je pense que ça tiendra.
C'est parce que c'est une association et pas un site qui appartient à un grand
tout à fait
monde,
mais le problème c'est que les mecs arrivent pas à en vivre de toute façon, ce qui était plus ou moins prévu. Je veux dire, les gars sont pas complètement idiots.
Non, maintenant, mais voilà, c'est la vraie passion.
Je vous conseille de vous abonner à leur flux RSS ou à leur fil Twitter ou tout ça, parce que de temps en temps, ils sortent des articles très bien, notamment sur les jeux de société. Ah,
c'est moi.
Quelqu'un a débouché une canette. Très bien.
Santé.
Merci, Mecton.
Alcoolique.
Ce n'est pas de l'alcool, monsieur. C'est une boisson à base de cola sucrée gazeuse.
Tout à fait. Verte. Voilà.
De toute façon, c'est un podcast Peggy 18.
Non, parce que je rappelle que pour des raisons d'organisation, on reparlera de nos lives un petit peu derrière, mais c'est vrai que le fait d'avoir pu organiser des émissions comme Classé 18+, c'est quand même un putain d'inédit sur la télé française.
C'est clair.
Et ça, c'était quand même un bel exploit.
C'était
je sais pas
bon,
si on aura
putain,
le temps
bon.
De parler de tout ce qu'on a envie de parler sur nos lives, parce que j'aimerais quand même bien qu'on fasse, qu'on essaie de faire quelque chose d'un peu sérieux pour vous montrer à quel point ça a quand même une importance énorme. Et en même temps, j'ai envie qu'on évoque énormément de... Enfin, que les gens puissent évoquer un peu de souvenirs qu'ils ont avec ça, parce qu'on a tous des souvenirs un peu particuliers de comment on a découvert la chaîne, de comment est-ce que... de quelles émissions on appréciait, de quels trucs on aimait, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu compliqué. Bref, je vais passer la main à Drosgar, qui a fait un travail de fond, du journalisme total... travail de fion. Du journalisme total.
Il a rentré dans Google un site qui s'appelle GAMEPLOG. Alors je sais plus si c'est .com, .fr ou .net ou .org ou .pute.
Point meilleur site de France. Donc je suis allé. En plus, non, en vrai, je suis même pas allé sur Gameblog parce que d'abord j'ai trouvé quelques petites infos sur Twitter et puis je me suis dit, ah, je pense qu'il y a un truc à creuser un peu. Mais on va reprendre un peu le début, donc ça va durer longtemps. Est-ce que vous savez que Spyro le Dragon, le premier épisode sur PlayStation 1, est sorti le 17 ans 98. Donc en septembre,
oui.
Ça fera 20 ans.
Waouh.
20 ans, ouais, donc bien plus vieux que Galaxy si présent.
Oui, oui, bonjour, bonsoir Galaxy qui nous a rejoint entre deux, que je n'ai pas salué parce qu'on était en plein milieu d'une conversation.
Parce qu'il était en retard.
Monsieur arrive en retard, hein,
ouais,
comme d'habitude. Est-ce que t'as un mot de ta maman? Est-ce que t'as un mot de ta maman pour ton retard?
Pas de réveil.
Tu vas aller dans le bureau du directeur.
Tu vas être collé, Galaxy, c'est tout?
Non, pas encore lui.
Bref, monsieur Drosgar, pardon, journalisme
et donc,
de fond, investigation, allons-y.
Comme le sait notre cher ami Antix, en général, les anniversaires ou les dates anniversaires de jeux vidéo sont souvent célébrés par soit des nouveaux jeux, soit des vieux reboots un peu pourris.
Ou des mecs qui ont un peu trop de mémoire et qui veulent parler de leur vieux jeu que tout le monde a oublié.
Ouais, par exemple, comme toi.
Comme Metroid.
Et ah oui, c'est vrai que ça fait de la peine, putain. Et donc, il y a quelques mois, en février... Kotaku avait annoncé que des sources fiables étaient en préparation en fait d'un reboot justement des premiers Spyro à la façon du Insane Trilogy de Crash Bandicoot, vu que Activision possède aussi les droits de Spyro. Donc petite rumeur parmi tant d'autres, hein, on en a toujours sur internet, mais depuis on a eu plusieurs informations. Par exemple, au mois de mars, le compte officiel de Spyro le Dragon s'est renommé sur Twitter Falcon MacBob est passé en compte privé. Sauf que, il y a un projet d'Activision, Anne pour nom de code Falcon. Donc déjà, vous voyez, ça laisse quand même un petit peu dubitatif.
F-Zero.
Ah ouais, le terrain sur Mario Kart 8, je connais bien. Et
non, mais faut arrêter, s'il vous plaît.
F-Zero et son Falcon Punch.
Sortez-le.
Et donc, il y a eu d'autres petites informations, et lundi 2 avril, comme par hasard le mardi 1er avril, d'ailleurs, j'espère que vous avez tous aimé notre petite blagounette.
Non, tout le monde a trouvé ça lourd.
Ouais, c'est vrai, comme d'habitude,
c'est
mais
blague,
c'est pas grave.
Moi, je crois que c'était sérieux. Rends l'argent.
C'était sérieux. Ah merde, faut qu'on rende le pognon parce que le lapin de Pâques s'est barré avec.
Salaud.
On va te payer en BitConnect.
La rédaction d'IGN a reçu un œuf violet avec des écailles où il y a marqué « Something's about to hatch » signé Falcon MacBob.
J'adore Harry Potter.
Putain, mais ferme ta race, t'étais même pas né.
C'est pour annoncer
la
saison 10 de Game of Thrones.
Non, c'est la suite de Billy Hatcher.
Niquez-vous tous, putain. Par contre, la suite de Billy Hatcher, je signe quand vous voulez, sur Switch. Ah, ben voilà. Sega, si tu nous écoutes, merci.
Put everything on Switch.
Y compris des mauvais jeux. Des jeux que tout le monde se fout.
Mais ils sont meilleurs s'ils sont portables.
Toujours meilleur. Donc la traduction signifie bien entendu quelque chose est sur le point d'éclore et on attend tous avec impatience une annonce officielle qui ne devrait pas tarder à arriver pour du coup une trilogie du premier jeu Spyro the Dragon, le deuxième Spyro 2 Gateway to Glimmer et Spyro 3 Year of the Dragon qui sortirait sûrement en septembre prochain.
Avec un accent anglais que je qualifierais de ouh quand même.
Ouais mais je fais du droit social donc en fait l'anglais je m'en marre de la race. Allez, sur ce, bonne grève les cheminots.
Qu'est-ce que c'est ça?
Cette conclusion de l'enfer. Bref, oui, bah, de toute façon, on verra bien ce que ça va donner. Enfin, moi, personnellement, Spyro m'inspire une seule chose, c'est...
The Skylander.
Non, c'est le premier jeu qui a utilisé la technique d'avoir une carte en low poly pour éviter d'avoir le phénomène de pop-up, en fait. C'est-à-dire que sur PlayStation, un des énormes défauts de la PlayStation, c'est que finalement, la distance d'affichage était en général très réduite. Donc sur N64, on compensait avec du brouillard. Sur PlayStation, non, en fait, t'avais vraiment les polygones qui popaient. Et une des astuces de Spyro the Dragon pour éviter ça, c'est la première fois que c'était utilisé.
Peu de texture.
Non, c'était de faire une map low poly, c'est-à-dire avec très peu de polygones qui étaient chargés en permanence et qui étaient visibles de très loin, mais qui consommaient quasiment rien, et en fait d'avoir une map extrêmement détaillée qui soit autour de Spyro à une distance visible raisonnable. Donc tu ne voyais plus de pop-up, tu voyais effectivement les textures qui se chargeaient et les formes qui passaient de très bas polygone à une définition un petit peu plus élevée, mais fallait vraiment avoir l'œil pour le voir, et l'illusion était presque parfaite. En fait, en low def, sur une télé cathodique en composite si tu veux, l'illusion était presque parfaite, et c'est une technique qui est toujours utilisée aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, quand tu te balades dans Zelda, t'as une version low poly de l'intégralité de la map qui est chargée, et ensuite, autour de toi, évidemment, c'est la version un peu jolie, et à distance, c'est de moins en moins joli au fur et à mesure que la distance s'éloigne. Donc cette technique-là de superposition de cartes est toujours utilisée. Je trouve ça vachement intéressant que ce soit le premier jeu à l'utiliser. Voilà, c'est le seul truc que je retiendrai à Spyro, parce qu'en dehors de ça, c'était sympathique, mais il y avait quand même pas de quoi se relever la nuit.
C'est un peu nul, quoi, non?
Je préfère ça que Crash,
franchement, je préfère Spyro à Crash Bandicoot 1. Le 2, je trouve, était nettement meilleur. Déjà, les contrôles sont un peu moins flottants et tout ça, mais voilà, je trouve que Spyro avait tapé juste plus dès le départ. Maintenant, c'est un peu comme, je dirais, presque comme Kirby, c'est-à-dire c'est un jeu qui est réservé quand même à un public plutôt jeune. Donc c'est pas désagréable du tout à jouer, mais c'est pas, il y a rien d'extraordinaire. Mario 64 à côté, effectivement, lui met une race, quoi qu'il arrive.
Oui, non, mais forcément, mais bon...
C'est un peu compliqué. Monsieur Antix, qui voulait nous parler de 3DS.
Alors ouais, je voulais vous parler de Dragon Quest 11. Ouais, parce que je parle toujours de Dragon Quest, j'ai l'impression. Mais en fait, c'est un jeu qui est sorti au Japon sur PlayStation 4 et 3DS l'été dernier. Qui a réussi en plus Square Enix a réussi l'exploit de réussir à vendre une version collector avec les deux versions du jeu.
Parce sympa. Que why not, mais parce pourquoi, que pas why not. Switch pourquoi pas de version Switch, Square Enix, soyez logique.
J'y viens après, c'est bon, twist. C'est twist de ma news. Merde, attends. Bref. Et donc la version, il y avait des différences entre les deux versions. La version PS4 a été faite sur le Unreal Engine, alors que la version 3DS en fait reprend les moteurs.
La version PS4 est moche.
Je suis sympa.
Alors la version 3DS qui tourne donc sur l'Unreal Engine 3DS, c'est ça. Très très moche.
En fait, la version 3DS, elle, en fait, est à la fois en 2D et en 3D. On peut alterner entre les deux modes de jeu, et en gros, c'est le rendu graphique de ce qu'on a pu avoir sur les épisodes 2D les épisodes 2D sur DS, ou les épisodes 3D sur 3DS. Eh bien, il se trouve qu'en fait, ce jeu a été annoncé pour l'Europe en septembre, donc soit plus d'un an après la sortie japonaise, sur PS4 et PC. Alors là, si vous avez un peu suivi ce que j'ai pris compte depuis tout à l'heure, en dehors des bêtises, vous êtes rendu compte qu'il manquait quelque chose, une version 3DS. Sachant que la version Switch est en prévision pour 2019, parce que le jeu avait déjà été annoncé dessus. Et en fait, je trouve que c'est une information qui est plus intéressante dans le sens où alors que Nintendo veut encore sortir des jeux en 2019 sur 3DS, et ben Square Enix a décidé d'en avoir rien à foutre, même pour une de ses séries stars, et alors qu'elle l'a sorti au Japon, ne sortira pas le jeu sur la console portable en Occident. Voilà, c'est une petite news que je trouvais intéressante.
Oui, d'accord, donc c'est ce que tu retires du fond du truc, c'est que les éditeurs tiers commencent quand même à dire la 3DS, on va peut-être s'arrêter.
Bah, c'était déjà le cas.
Et puis, c'était déjà un peu le cas, mais là c'est vrai que c'est une sorte de confirmation, parce que là le jeu il est développé, il est déjà traduit, puisque la version PS4 doit être à peu près la même que la version 3DS.
Voilà, la seule différence c'est de faire des tests en plus pour vérifier que tout colle bien dans les cases, et en fait je pense que Square Enix a fait bon, Dragon Quest ça vend pas non plus des masques ça en Occident, on va juste sortir la version PS4 parce que je dis que ça se vendra, la 3DS de toute façon il y a plus trop de jeux qui se vendent dessus. Enfin, suffit de regarder le dernier bilan annuel où en fait la Switch je crois qu'il y avait vendu quasiment, voire plus de jeux que la 3DS, avec un parc trois fois moindre, quoi.
Ouais, enfin, ouais, c'est vrai.
Même plutôt 4 ou 5 fois.
Effectivement. Je vais finir avec une petite nouvelle qui nous vient de Nintendo, qui nous vient précisément de monsieur... Attendez, je vais le retrouver. Ah, je vais pas retrouver. De monsieur Takashi Daisuke, hein, que nous connaissons tous pour son rôle dans Chérie, j'ai raté l'avion 2. Oui. Je ne sais pas, je ne connais pas cette personne.
Ah, le film avec Trump, là.
C'est ça, le...
Je pense qu'il a aussi joué dans, dans un épisode...
De Friends.
De n'importe quelle série japonaise, en fait.
De 8 à la maison.
À la maison.
C'est important.
Et un film de Kurosawa.
Et tout à fait. Et il a aussi joué dans Kung Fu Panda 3. C'est lui qui faisait le gars au fond dans la première scène. Voilà.
Et il joue aussi un des Yakuza dans Kill Bill. Celui qui est mort avec la tête coupée.
Et si je peux me permettre, de ses grands rôles, c'est Figurant 32. Comment l'oublier ? Figurant 32
dans Kill Bill, dans le générique, il y a effectivement figurant numéro 1, 2, 3, 4.
C'est mon respect.
C'est, voilà. Bon, bref, non, trêve de conneries. Ce monsieur travaille chez Nintendo Japon et c'est donc lui qui est responsable d'un truc qui s'appelle Nintendoware Bezel Engine, qui est en fait un moteur de jeu, une espèce de middleware moteur de jeu fait par Nintendo pour simplifier le développement de jeux sur Switch. Alors ça s'adresse essentiellement aux développeurs indés et aux développeurs indés qui voudraient faire des exclusivités pour Switch. Donc, ce que je retire de là, alors on a évidemment pas grand chose comme détail technique, il faudrait être inscrit et être un vrai développeur Switch. Ce que je ferais bien si j'avais les moyens pour récupérer un kit de développement et tout ça, ça m'intéresserait, mais globalement c'est quand même pas trop mon rayon et puis ça coûte un petit peu cher. Mais ce que ça renvoie comme signal, c'est les indés se portent très 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 bien sur Switch et Nintendo l'a très bien compris et commence à leur fournir des outils en exclusivité pour développer leurs jeux seulement sur Switch. Donc je pense qu'il y en a quelques-uns, ceux qui ont peut-être très peu de moyens et qui se disent à quoi ça sert d'aller développer un jeu sur PC si au final j'en vends 5 fois plus sur Switch, autant tout développer sur Switch. Ça envoie un petit signal à ces gens-là pour leur dire, un petit signal du pied de Nintendo qui dit les gars, allez venez, c'est ouvert. C'est quand même pas inintéressant. Voilà, c'était juste ça. Donc si vous réentendez parler du Nintendoware Bezel Engine, pensez qu'effectivement il va peut-être y avoir quelques jeux indépendants qui vont être développés dessus. Bref, nous allons marquer une petite pause musicale avant de parler de No Life TV. No Life, si vous nous écoutez, big up.
Grave.
Je pense pas, mais gros, grave big up. On va écouter une musique qui est devenue, au fil du temps, une espèce d'hymne de No Life, d'une certaine manière. Je ne parle pas du générique de No Life, ta gueule le chat. C'est possible, ça. Je ne parle pas du générique de No Life que j'aurais bien aimé passer, mais j'ai pas trouvé de version correcte qui était
Street of Rage, c'est bon.
Oui, voilà, il y a ça aussi, mais ils ont plein de génériques qui ont été composés par des groupes de J-pop, en fait, et il y en a dedans qui sont très 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 cool, qui servent à faire des jingles de 10 secondes, alors qu'en réalité, le morceau d'origine fait 3-4 minutes, donc c'est quand même assez foufou. Mais il y a un des morceaux, je trouve, qui est vraiment un gros symbole de No Life, c'est Still Alive, de la bande originale de Portal, puisqu'il a été utilisé dans quasiment toutes les soirées de fin d'année de No Life, où ils étaient pas sûrs de survivre, et à chaque fois, c'était non. Finalement, on sera encore là une année de plus. Malheureusement, ce ne sera pas le cas cette année. Alors, un petit espoir survit, mais ça risque d'être malheureusement extrêmement compliqué. Voilà, donc on va écouter Still Alive sur la bande originale de Portal. Ça durera un tout petit peu plus de 3 minutes. On se retrouve tout de suite après. This was a triumph. I'm making a note here. Huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we can. And believe me, I am still alive. I'm doing science and I'm still alive. I feel fantastic and I'm still alive. Still alive, and when you're dead, I will be still alive. Still alive, still alive.
Tour
Game Blog. Ils étaient plus rapides que moi. Nous voilà de retour. Je m'attendais à ce que personne dise rien, du coup. C'est bizarre. Donc nous allons parler de No Life TV. Alors No Life, qu'est-ce que c'est d'abord, pour commencer? Il va falloir faire une petite rétrospective extrêmement rapide et forcément fausse, je vous invite à vous renseigner vous-même, mais c'est pas si évident que ça à trouver, du le jeu vidéo à la télévision française. on va dire francophones, parce que j'aimerais bien que nos petits camarades de Belgique qui eux aussi regardaient nos lives, et nos petits camarades de Suisse francophones qui eux aussi regardaient nos lives, et nos petits camarades du Canada qui eux aussi de temps en temps regardaient nos lives, parce que en fait nos lives c'est, ça a dépassé les frontières un petit peu. C'est quand même un phénomène très français, mais qui a dépassé un petit peu ce cadre-là. Le jeu vidéo à la télévision française, c'est un phénomène qui date d'il y a très longtemps. Et en fait, il y a très longtemps, quand vous étiez même pas né, ni Galaxies, ni Drosgar, et Antix.
Et nous, à peine.
Avant 2006.
Bah moi, je suis de 90. Hein.
Ouais, mais il y en a eu avant, en fait.
Dès le début des années 80.
Dès le tout début des années 80, il y a eu des émissions.
Genre, même nous, on n'était pas nés.
Même nous, on n'était pas nés. Même
moi, je parle d'un temps que les
comme le poisson
ne peuvent pas connaître.
Ah, mais c'est ça. On est. Chut. Est-ce que vous pouvez arrêter avec ça, s'il vous plaît? Bref, donc, en ces années-là, le jeu vidéo à la télévision française, ça ressemblait pas à grand-chose.
Poisson fallu... pané, je l'ai.
Putain, merci, Drosgar.
Galaxis.
C'est la même chose.
Elle a perdu.
Chaque fois la perte mortelle.
Ça fera un bon journaliste pour Gameblogs, hein.
Voilà, ça c'était l'esprit, tu vois.
Ça y est, il m'a tué, ça y est. Ah putain, mais c'est pas possible. Ah. Sortez-le moi, s'il vous plaît. Sortez-le. Bref, donc le jeu vidéo à la télévision française, c'était très compliqué jusqu'à, en gros, le milieu des années 90, où on a commencé à avoir des émissions qui n'étaient peut-être pas de qualité. Faut peut-être pas déconner.
Ah, putain, oui.
Je pense à Télévisateur 2, qui était une émission dédiée aux jeux vidéo, mais qui n'était pas forcément de qualité.
Bisous, crevettes.
Ouais.
C'est un peu ça.
Cyril Crevette, j'en ai regardé certains, là, il y a un an ou deux, ça a mal vieilli, quoi.
Mais même à l'époque, ça avait mal vieilli. C'était compliqué. Mais en fait, le truc, c'est que c'était plus, en fait, l'émission jeunesse, le créneau ado, en fait, c'est-à-dire des émissions jeunesse à la télévision française, qui était le 9h-11h, en gros, le samedi matin et le dimanche matin.
Avec Hélène et les garçons.
Ouais, voilà, qui était squatté par...
Le mercredi.
Qui était squatté, ou le mercredi matin. Alors, moi, je suis désolé, moi, j'avais école le mercredi matin.
Oh
ah bah,
moi aussi, hein.
Mais je préfère avoir école le mercredi matin que le samedi matin, hein. Je suis désolé, hein, mais...
Ou que finir plus tard les vacances.
Exactement. Et donc ce créneau-là, en fait, c'était Télévisateur 2 qui, en gros, entrecoupait des dessins animés qui n'étaient pas forcément en rapport avec le jeu vidéo, mais simplement la programmation jeunesse de France 2, France 3, avec des séquences de jeux vidéo qui pouvaient être une critique de jeu, un reportage sur un truc, un concours de jeu, un machin comme ça, mais on restait toujours dans le cadre de l'émission jeunesse avec un bout de jeu vidéo dedans, parce que ça fait bien pour les jeunes dans le vent, et que ça plaît au grand public, plutôt que la vraie émission dédiée aux jeux vidéo. La première vraie émission réellement dédiée aux jeux vidéo qui marchait bien, c'était le truc de Canal+, dont on n'arrive pas à se rappeler le nom, avec Cléo.
Ouais, Clic, ouais. Cléo.
Putaclic, non, c'est pas celle-là.
Il y avait MicroKids, monsieur.
Oui, il y avait MicroKids qui marchait très bien aussi. J'avais oublié MicroKids. C'est France 3, MicroKids ?
C'est ouais. TF1. Non, c'est France 3.
Il me semble que c'est France 3, MicroKids.
Galaxy, il parle de quoi, là ?
Super Flash !
Je sais pas.
Attends, je recherche sur Usul, le truc avec Clio, je me rappelle.
Oui, ça me dit quelque chose aussi.
Sur TF1, le jeu vidéo, c'était pour les asociaux et compagnie. Hein.
Oui, non, mais c'est sur le TF1, c'est pour
quand
les
même
asociaux
Pokémon, hein.
Famille de France represent.
Et donc, à la suite de Cyberflash, donc sur Canal+, qui était... Alors, je sais plus si c'était un décrochage hebdomadaire ou quotidien, mais il me semble que c'était plus hebdomadaire, parce que quotidien, ça me paraît beaucoup... Ou alors, il y avait peut-être plusieurs émissions par semaine, mais qui faisait du jeu vidéo et de l'actualité... tech, on est quand même dans les débuts de l'internet grand public, en tout cas en France, donc c'était souvent, il parlait d'un site web qui rendait un service complètement extraordinaire, par exemple eBay, tu vois. Moi j'ai appris ce que c'était que ebazar.fr, parce que, s'il vous plaît messieurs,
grâce
à Cyberflash, bon voilà, c'est con, mais effectivement, de trouver des renseignements là-dessus, c'était pas forcément très évident, et à la télévision française, t'en avais encore moins. Sur le coup, Canal+ lance Game One. Alors, je sais pas si c'était déjà en partenariat avec Infogrames ou pas. Il me semble que non. Il me semble que c'est Canal+ qui a lancé le truc tout seul.
En solo, ouais.
Ouais, qui lance une chaîne dédiée aux jeux vidéo et on va dire à la culture geek, mais avec des gros guillemets. C'est-à-dire à l'époque où c'était pas encore une insulte. Donc, il lance ce truc-là et qui se dit bon, je lance le machin, on verra bien ce que ça donne. Qui se rend compte au bout de, je crois, un an ou deux que le machin était finalement pas rentable, c'est-à-dire qu'ils espéraient que ça allait mieux marcher que ça. Ils l'ont lancé, je crois que c'était câble et satellite seulement. Finalement, ça marchait pas tant que ça, donc il revend intégralement Infogrames, et de là, naît l'idée, à l'intérieur de la rédaction de Game One, dans lequel il y a messieurs Alex Pilot, alors Sébastien Ruchet, je ne suis pas certain qu'il a pu passer par Game One.
J'en sais rien. Je pense pas.
Je pense pas. Je sais que Pilot, Alex Pilot,
Pilot, c'est sûr.
Il y est passé, c'est certain. mais je sais pas à quel point, voilà, c'est là où Marc de Lacombe, a démarré aussi sa carrière à la télévision, parce qu'en fait il c'était déjà un journaliste papier avant.
En inventant un concept révolutionnaire.
Le Let's Play.
Yep.
Level 1, c'est le premier Let's Play.
Ouais.
Bref. Donc tout ça combiné fait que Sébastien Ruchet et Alex Pilot se disent il faut lancer une chaîne qui est dédiée à la culture geek de manière générale et éventuellement à la culture japonaise en plus, et se disent on va lancer Game One, enfin on va lancer pardon No Life, putain mais je dis que de la merde. Et l'autre qui me déconcentre avec ses conneries. C'est voilà. Lance No Life avec tout un tas de programmes complètement ouf. Enfin, des trucs jamais vus à la télé avant.
Oui.
Mais vraiment. Avec l'objectif de pas faire télé. Ça c'était le grand running gag pendant pratiquement 11 ans de « Putain, non, ça fait trop télé. » Mais c'est vrai. Hein. En plus, c'était vraiment de faire de la télé qui ne ressemble pas à de la télé. Et c'est ça aussi qui était génial, cette espèce de ton dans lequel on pouvait faire on pouvait diffuser à heure de grande écoute, à 20h, c'est-à-dire en prime time, un super play de Metal Gear Solid qui fait un run 100% en 5h, quoi, sans problème.
Tu sais, je me rappelle d'un mec qui a fait
là, là.
Un mec qui a fait tout Hero 4 au couteau.
Mais oui, c'est ça.
Non, tout
au couteau Noken.
Non, mais il y a eu. Il y a eu. C'est merde. C'est AM qui a fait, qui a présenté un super play de Hero 4 où c'est précision 100%. Il met pas une balle à côté. Il se fait jamais toucher. Ça. Il fait. C'est des trucs complètement.
Il finit avec zéro balle. Enfin,
il finit
parfait,
avec exactement zéro balle. Et t'avais des trucs comme ça qui sont. Enfin. Parce que du speedrun, il y en avait sur Internet, il y avait Speed Game, 80 miles à l'heure et Speed Game de ces messieurs de Nesblog. Les gars, si vous nous écoutez, big up aussi.
Ouais, bisous.
Bisous aussi, parce que vous avez aussi fait de très grandes choses. Mais c'était les premiers à avoir diffusé, effectivement, du speedrun en live, ou pas en live d'ailleurs, en différé, avec le speedrunner dans les studios, qui explique exactement ce qu'il fait, toutes les techniques utilisées et tout ça. C'est quand même quelque chose qui est... Enfin, je sais pas, je trouve ça assez extraordinaire. Et tu diffuses ça en France et à l'heure de grande écoute.
Enfin, sur le câble, quand même. Hein.
Alors, ADSL. Sur l'ADSL seulement, parce que le grand pari du truc, c'était... je crois que Free a lancé les premiers forfaits triple play, où il y avait effectivement la télévision par ADSL à partir de 2005-2006, si je dis pas de conneries, peut-être un tout petit peu plus tôt que ça. Je voudrais pas dire de conneries, mais on va forcément en dire. Hein.
C'était pas mémoire, les premières Freebox, c'était pas 2003 ou 2002
C'est possible, mais la télévision par ADSL, pour moi, les premières Freebox, il y avait téléphone et ADSL, mais il n'y avait pas de télévision. La télévision est venue bien plus tard. C'était la télévision basse définition et c'est venu bien plus tard dans mon souvenir. Mais bon, je pourrais me tromper. Donc le pari de messieurs Ruchet et Pilote était donc... de dire on va lancer une chaîne qui sera disponible que sur la DSL, parce qu'effectivement lancer une chaîne sur la TNT c'est quelques millions d'euros je pense qu'il faut mettre sur la table, enfin ça coûte cher. Lancer une chaîne câble et satellite, bah mine de rien ça coûte cher aussi parce qu'il y a des licences à payer et pas des licences, enfin c'est vraiment pas gratuit. Donc leur pari c'était de dire on lance ça sur la DSL parce que les licences sont extrêmement faibles et qu'en réalité les mecs pensaient sincèrement que la télévision sur internet, enfin la télévision par la DSL, la TVOIP telle que proposait Free allait finir par arriver chez les autres opérateurs, ce qui est arrivé finalement très rapidement, et que ça finirait par faire potentiellement plus d'audience que ce qui est câble et satellite, qui était quand même un peu sur le déclin. Paris osé, et qui leur a posé le premier problème majeur, c'est que Médiamétrie en avait rien à branler de la télévision sur ADSL, et donc ils n'ont jamais eu d'idée de leur audience, et donc ils n'ont jamais eu de revenus publicitaires.
Ils l'ont pas eu avant très
longtemps. Extrêmement tard, c'est venu au bout de 4 ou 5 ans, quelque chose comme ça, ce qui est monstrueux. C'est-à-dire une chaîne de télévision qui diffusait un tout petit peu de pub, on diffusait très peu, mais qui diffusait un tout petit peu de pub, publicité qui rapportait grosso modo des clopinettes, quoi.
Ah, mais je me rappelle, ils avaient fait un debug mode, l'émission qui filmait un peu les coulisses de la chaîne, les problèmes,
ça
la vie
aussi,
quotidienne,
ça
tout
aussi
ça.
Un truc complètement ouf à la télévision française, aller filmer la rédaction en train de galérer à finir ses montages, à finir ses trucs, à aller en reportage,
à expliquer pourquoi la coupure de jus a fait merder tel truc,
pourquoi le régisseur général te dit mais pourquoi finalement les sauvegardes ils vont les faire sur bande parce que ça coûte nettement moins cher, qui te montre les locaux, qui te montre les caméras, qui te montre,
enfin, qui explique les métiers.
Et qui explique
et
le métier.
Ouais, un debug mode où les mecs se filmaient, ils ont applaudi le passage de la première pub qui est passée, et de mémoire, c'était une connerie pour des chewing-gums, je crois.
Oui, de mémoire, c'était ça aussi, c'était genre une pub de Malabar, un truc comme ça.
Ouais, enfin, je sais
juste,
plus.
Ouais. Ah, bah les couilles, quoi.
Ça,
bah, c'est pas ça, c'est que de toute façon, ça leur rapportait que dalle, quoi. Enfin, c'est...
Au final, ouais.
Au final, faut voir que la chaîne a été lancée avec un budget qui était le budget de départ, tout compris, hein, c'est-à-dire location, le cachet des mecs, et je pense que Pilo et Ruchet devaient pas se payer au départ, en tout cas, je vois pas comment. Ou alors, ils étaient... Je sais qu'il y en a pas mal qui avaient un statut un peu bizarre, genre intermittent du spectacle, ou quasiment... Un truc un peu bâtard qui faisait que, bon, ils arrivaient à survivre comme ils pouvaient. Mais le budget de départ de la chaîne, c'était 1000 euros par mois.
Ah, oui, ça fait pas lourd, hein.
Ça fait quand même non, pas mais lourd. C'est
vrai, des balls en acier, les
pour... La chaîne était seulement montée.
La location de caméra, ça coûte plus cher, quoi.
La location de caméra coûte plus cher. Il faut que vous imaginiez... Alors, à l'époque, c'était c'est pas des caméras HD, hein, quand ça a été lancé.
Oui, oui, ou... oui. Non, mais je me doute. Mais voilà. Je veux dire, aujourd'hui, une location de caméra, ça coûte plus cher que 1000 euros par mois, quoi.
Du coup, ils filmaient avec des webcams.
Non, ils filmaient avec des vraies caméras, en plus. Mais je pense qu'il y avait beaucoup de matériel de récup, en fait. Il y a énormément de... Quand tu vois dans les debug box, justement, les mecs t'expliquent que, ouais, les plateaux de mixage, bon, bah, on l'a trouvé sur le bon coin, il coûtait pas cher. Et bah oui, les mecs sont obligés de faire des trucs avec des bouts de ficelle.
Le mec qui repassait les fonds verts et tout.
Exactement.
Oui, d'ailleurs, les fonds verts que tu voyais grillés à des kilomètres...
Bah parce que tu fais ce que tu
ouais,
veux.
Mais c'était... Ouais, ouais.
Mais c'était l'esprit... Je suis désolé, hein.
C'était l'esprit.
C'était l'esprit un peu amateur. Je sais pas si vous vous rappelez les débuts de YouTube, les débuts de gens comme The Angry Video Game Nerd ou même du joueur du grenier ou des trucs comme ça. Évidemment que tu grilles les fonds verts à 2 km. Évidemment que tu vois, c'est de l'After Effect avec des trucs préfaits. Mais en même temps, ça marche suffisamment bien pour créer, comment dire, la suspension de crédulité nécessaire pour le spectateur qui se dit, ok, c'est un peu amateur, mais globalement, ce qui compte, c'est le propos. C'est pas la forme.
Voilà, c'est ça.
Non, et puis ils ont joué, enfin, de ce que j'avais...
Et ils en ont beaucoup joué.
Vu que j'ai vu une live, ouais, ils jouaient beaucoup de cet esprit très on est entre potes, on fait un peu ça à l'arrache, on est un amateur. En vrai, je pense que par pas mal d'aspects, effectivement, c'était un peu YouTube avant l'heure, No Life.
Bah, t'avais cet état d'esprit un peu, oui, amateur 2.0, c'est finalement vidéo amateur pratiquement de ce que t'avais dans la fin des années 2000, fin et début des années 2000, où t'avais pas mal de gens qui faisaient de la vidéo amateur. Et finalement, ça s'est transposé sur Internet, alors notamment grâce à James Rolfe, The Angry Video Game Nerd, mais c'est vrai que t'as un peu cet état d'esprit. On bricole des trucs avec des bouts de ficelle et c'est pas trop grave parce que ce qui compte, c'est ce qu'on dit, et c'est ce qu'on montre, et c'est pas forcément comment on le montre. Et je me rappelle d'un épisode de XP, un grand moment, un très grand moment de la télévision, où les mecs sont là genre... Ah oui, c'est le XP du mois de je sais pas quoi, mais on en a déjà fait un ce mois-ci. Ah ouais, mais c'est un mois à 5 semaines, donc en fait, on en refait un. Et puis les mecs sont là, ah ouais, mais du coup, nous, on fait rien. Ah, mais on va pas se filmer à rien branler pendant une heure, quand même. Je dis, bah si, enfin, toi, tu fais ce que tu veux, mais nous, on fait rien. Quoi. Et c'était là, genre, mais c'est... Et les gars ont vraiment fait ça, c'est-à-dire, tous les plateaux de l'émission, ils étaient là, genre, ouais. Ah, voilà.
C'était grand, SNCF, tout ça, dis-moi.
Je me permets une toute petite parenthèse, j'ai vu une citation aujourd'hui qui m'a beaucoup fait rire d'un mec qui dit « Vous dites que les fonctionnaires branlent rien, mais globalement, quand ils font grève, ils bloquent le pays, c'est quand même un tout petit peu paradoxal. » Je suis assez d'accord. Je trouvais ça très bien vu. Hein. Je ne sais plus de qui c'est, j'ai vu ça se traîner sur Twitter. Bref.
Et puis, il y avait une particularité sur la chaîne. Alors, moi, je suis un peu comme les autres, je ne l'ai pas trop vu parce que je n'y avais pas accès globalement, vu que je n'avais pas Free. Et je crois que c'était que sur Free. Alors, si je me
trompe pas. Au début. Après, bien, j'aurais une anecdote avec ça.
De bouger. Et je sais aussi qu'ils avaient aussi voulu passer des clips de pop japonaise à la télé et que le CSL aura dit bah non, pas trop, enfin en tout cas pas aux heures de grande écoute. Et en fait, l'astuce qu'ils avaient trouvée pour justement pas passer de la musique banale ou faire plein d'émissions avec peu de budget, c'est de mettre des clips d'Europe de musique indépendante underground française. Et donc à la télévision, moi je trouvais que c'était quand même très, très astucieux et plutôt rigolo.
Pour remplir le quota obligatoire, puisque tu es obligé en France quand tu... Alors officiellement, No Life est une chaîne musicale.
Oui, dans les statuts.
Une chaîne thématique musicale dans les statuts. Parce qu'en fait, c'est...
C'est bien le problème.
Alors ça fait partie du problème. Parce qu'en fait, c'est très compliqué de faire autre chose que ça en France. C'est-à-dire que la plupart des chaînes de satellites, câbles, tout ça, sont déclarées en tant que chaîne thématique, je sais pas quoi, et eux, c'est thème chaîne thématique musicale, parce que c'est plus simple. Et du coup, bah, ils sont obligés de diffuser genre 10% ou 15% de musique française dedans, et donc le choix couillu, ça a été de dire, bah, je suis désolé, il n'y a aucune raison qu'on aille payer la SACEM pour des trucs qui coûtent un bras, on va les diffuser des indépendants qui seront bien contents d'être diffusés et qui ne nous réclameront pas grand-chose. Yes. Comme
et alors, au passage, j'avais découvert Guédré et Old Elaf sur cette chaîne.
Et voilà. Et il y a plein de gens qui passent, et depuis quelques temps, il y a... Heavy Metal... Ah, putain.
Ah, Ultra Vomit.
Ultra Vomit, qui passe de temps en temps, et dont, les, il me semble, les clips vidéo avaient été faits, alors, à la fois pour nos lives, mais aussi pour YouTube évidemment, mais qui passait aussi pour nos lives de la même manière.
Oui, oui.
Bref, donc les mecs font ça, et en fait, faut vous rendre compte d'un truc de ouf aussi. J'ai plus le chiffre en tête exact, donc je vais pas dire de conneries, mais grosso modo, c'est possible. Une chaîne de télévision classique, câble satellite, produit finalement très peu d'heures de télévision par semaine, en réalité. Alors ça a l'air de rien comme ça, mais une chaîne de télé satellite, je sais plus le chiffre exact, mais c'est genre, c'est moins de 5 heures par moins de 4 heures par semaine.
De nouveaux c'est des rediffs, produits. Des pubs.
Parce qu'en fait, t'as 80% de rediffs, de machins, de quand c'est une chaîne musicale, des clips musicaux qui passent en boucle et ainsi de suite. No Life, c'est un tout petit peu plus de 8 heures de production vidéo par semaine, ce qui est gigantesque. Mais alors, gigantesque. C'est absolument énorme comme boulot à abattre, et ça a été abattu avec des bouts de ficelle par des gens qui sont pas des amateurs, mais qui étaient quand même. Peignot lance-pierre et avec
c'était
beaucoup
beau
de bonne volonté.
Les voir apprendre et faire de mieux en mieux, quoi. C'était vraiment cool.
Oui, je suis d'accord, c'était vraiment cool. Je sais pas si vous avez eu, maintenant qu'on on a un peu dressé le portrait de la chaîne assez rapidement et la remise en contexte qui fait que bah, pourquoi c'est important No Life, parce qu'effectivement c'est né en même temps que la vidéo amateur sur internet.
Les web-séries, oui.
C'est né en même temps que les web-séries. Ça en a lancé certaines, ça a lancé énormément de carrières. Il y a tout un tas de gens qui seraient pas là où ils sont aujourd'hui si No Life n'avait pas existé, si No Life ne l'avait pas lancé.
Il y a tout un côté aussi à assumer la culture geek qui est, enfin, telle qu'on le fait maintenant et qu'on certains revendiquent. Mais No Life, ils étaient là à une époque où c'était un truc qu'on cachait un petit peu, qu'on gardait pour soi, qui était un petit peu honteux. Et eux, ils l'ont...
Pareil, j'aurais un souvenir avec ça.
Ils l'ont mis un peu en avant. Ils ont même poussé le vice jusqu'à mettre des animés un petit peu trashouille après 23h, après minuit, en sous-titré. À une époque, on n'avait pas encore accès aux versions multilingues grâce aux box.
Oui, et d'ailleurs, il y a aussi une autre grande première. Alors, il y a pas mal de grandes premières à la télévision française qui ont été faites par No Life. Il y a le premier présentateur transgenre.
C'est vrai.
Dame Dame,
oui.
Qui a présenté ses premières émissions...
Dame Dame, c'est pas le. Alors, c'est là ou là qu'on doit dire là, non, c'est ça
bah là, maintenant. C'est là maintenant.
C'est là. C'est
la streameuse.
Moi, surtout, je la connais pour avoir fait un super play de Don Pachi.
Ah oui, mais c'est une gameuse incroyable.
Hein. C'était incroyable. Hein. Franchement, à regarder, c'était waouh, Don Pachi, quoi.
Elle est assez Bah écoutez, je vais vous raconter une petite anecdote parce que. Il y aura forcément un moment anecdote, donc on va commencer. Comme ça, ça permettra d'en écluser un certain nombre.
Cette émission va faire 8 heures.
Cette émission va faire beaucoup de... Non, j'espère que non. Mais je trouvais ça super important, en fait, de vraiment replacer No Life dans le contexte qui est le sien. C'est-à-dire, voilà, il est arrivé à une époque où il était important qu'il arrive. Il y a beaucoup de gens qui lui ont reproché d'être seulement une chaîne de télévision, c'est-à-dire de dire, bah, finalement, le fait d'être une chaîne de télé alors que YouTube émerge et tout ça, c'est très con. Et en fait, au lieu de vous acharner à ça, vous feriez peut-être mieux de faire une chaîne YouTube. Mais je pense qu'ils n'auraient pas été capables de survivre non plus de cette manière-là.
Ça aurait peut-être été pire d'ailleurs, parce que niveau pub YouTube, c'est pire.
Niveau pub, c'est pire, et puis depuis l'Apocalypse, il y a un an et demi, c'est quand même les mecs sont quand même sur la pente descendante pour tout un tas de trucs. Je veux dire, il y aura pas, je suis intimement persuadé qu'il n'y aura plus de futurs joueurs du grenier qui démarrent aujourd'hui. C'est quasiment impossible, ça c'est devenu trop bouché. Et bon, bref, on n'est pas là pour discuter de ça, mais... Un jour, il faudra peut-être qu'on fasse une petite émission consacrée à YouTube, parce que c'est vrai que je pense que le truc est vraiment sur la pente descendante. Je ne sais pas ce qu'il remplacera, mais en tout cas, on va dire qu'il y a quelques problèmes liés à ça. Mais une petite anecdote, moi, comment j'ai découvert la chaîne, j'avais SFR, parce que j'étais sexy à l'époque. C'était en 2008, je crois, c'est effectivement le moment où c'est arrivé chez Orange et CSFR. C'est-à-dire qu'à l'origine, c'était une exclusivité Freebox, ça finit par arriver ailleurs. Et ça devait être un dimanche après-midi, pluvieux. Je zappais, parce que je n'avais rien d'autre à faire, j'étais désœuvré, comme toute la jeunesse. Hein. Et je tombe sur Dame Dame, qui est en train de faire un super play sur... Vous savez, le jeu japonais totalement ouf, là, comment ça s'appelle, avec un... T'as un panel avec plein de boutons de couleurs... Et c'est genre...
Le truc de rythme. Oui.
Le truc de rythme.
Ah.
Pas Dance Dance Revolution, mais l'autre truc de rythme complètement taré.
Beatmania.
Ouais, Beatmania. Beatmania DX, enfin, je sais pas exactement lequel, je sais plus quelle version. Et je vois, tu sais, tu zappes et tout d'un coup, tu tombes là-dessus. Et tu te dis, putain, mais le mec est en train de faire en direct du Beatmania DX à la télé.
Enfin, la fille.
Non,
c'était un mec à l'époque.
C'était un mec quand même.
C'était un mec à l'époque.
Zut.
C'est compliqué. Hein. Ouais. Et le mec fait ça, donc le mec fait son truc, et il commence à taper partout et tout. Puis il s'arrête, il fait, bon, voilà, là, on vient de battre un machin, on a fait une note de 78, ce qui est pas trop mal. On va essayer d'attaquer une chanson plus difficile. Et puis t'as Radigo, le gars qui présentait Superplay à l'origine, qui s'amène en disant, bon, alors, c'est quoi l'astuce, machin. Et le gars dit, bah, de temps en temps, je suis obligé de taper avec le coude, avec la paume, avec le machin. Et j'étais là, genre, mais qu'est-ce que c'est que cette émission? Mais qu'est-ce que c'est que cette chaîne, putain? Mais ils sont énormes. Et en fait, je crois que j'ai pas décroché de l'après-midi. Parce qu'il devait y avoir une rediff de plein de Superplay et de Retro and Magic et de plein d'autres émissions et de Hidden Palace. Et donc j'ai eu une espèce de gros échantillon de la chaîne sur un dimanche après-midi et j'ai scotché à partir de ce moment-là et j'ai pu lâcher le truc. Voilà.
C'est beau.
Mais c'est parce que tout d'un coup je tombe sur un truc qui me parlait vraiment. C'est un mec fait à la télé du Beatmania. Je sais pas pourquoi, mais il le fait, il en a rien à foutre. C'est pas vendeur pour deux ronds à de la télé normale, mais là ça passe.
Voilà. Parce qu'en vrai, moi, enfin, et entre guillemets, mais c'est-à-dire que je suis, enfin, c'est ma phrase, je suis entre guillemets, mais j'ai surtout grandi dans cette, dans, avec YouTube, quoi. Donc, était déjà installé, genre, il y avait cette culture qui était représentée. C'est vrai que ça devait être pas si commun que ça. Enfin, je me rends pas tellement compte, tu vois, parce que je l'ai pas vécu en soi. J'étais pas né.
Faut que t'imagines que la vidéo sur internet en 2008,
c'était pas ça. Hein.
C'était pas encore ça. Hein,
ah si, si, en 2008 j'étais né. Oui,
est-ce
d'accord.
que Twitter existait que tu parlais en 2008
oui, oui, Twitter existait en 2008. Non, mais d'accord. YouTube existait en 2008. Hein, oui, depuis deux ans. Oui, depuis deux ans. Mais ça restait.
Ce qu'il faut se dire, c'est que le joueur du grenier, qui est un monument actuel, il est là.
Il commençait à peine.
Il est... Non, je crois qu'il était là que depuis 2009 ou 2010. Hein.
Non, 2007, je crois. Attends, on va vérifier. Mais
pour moi, c'était un peu après.
Mal de temps qu'il fait.
2008, ça faisait que deux ans que YouTube existait, c'était à peine utilisé, les vidéos étaient limitées à 10 minutes et on avait le droit à du 480p dans le meilleur des cas.
Et puis les gens uploadaient un peu n'importe quoi. Et il faut voir les plus grosses audiences de YouTube de 2008. Je crois que j'avais vu James Rolfe et Mac Mattei de CinemaSacker, donc The Angry Video Game Nerd, qui expliquaient ça. Ils disaient voilà, eux à l'origine, les vidéos, ils les hébergeaient là où ils pouvaient. Parce qu'en
2009,
réalité,
FGDG. Pardon.
C'était pas si évident que ça d'héberger ces vidéos dans un format lisible, c'est-à-dire que la plupart des gens, c'était Mosinor, hein, qui les mettait en téléchargement sur des FTP free, qui récupéraient gratuitement, et en fait, t'avais pas de player intégré dans ton navigateur, tu téléchargeais ta vidéo, tu la regardais après.
On me souffle, c'était en flash, putain, c'est
et
pas
en plus, c'était en flash, enfin, tu... Et t'imagines CinemaSacker, les mecs galéraient pour aller faire leurs vidéos qui étaient des trucs à la con en plus. Hein. Et The Angry Video Game Nerd, qui a été filmé, les tout premiers ont été filmés en 2004-2005, ils étaient disponibles en téléchargement sur le site de CinemaSacker, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de référencement, il n'y avait pas de... Enfin, c'était très compliqué. Les mecs ont lancé leur chaîne, je crois que c'est le en janvier 2007 ou en février 2007, un truc comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont lancé le truc en disant « Tiens, il y a un nouveau truc, on peut mettre de la vidéo, on peut la regarder en même temps qu'on la télécharge. » Tu vois, la révolution, quoi. La révolution, c'était ça. Et les gars faisaient, c'était la plus grosse audience, une des plus grosses audiences de YouTube, ils faisaient 20 000 vues par vidéo. Pour des contenus qui avaient déjà 3-4 ans, qui réuploadaient comme ils pouvaient, dans le format qu'ils pouvaient, et ainsi de suite. En 2008, effectivement, ça commençait un petit peu à prendre de l'ampleur et à prendre de la... Comment dire? Et à prendre de l'inertie, quoi. C'est-à-dire, ça commençait à démarrer vraiment. Mais Dailymotion était pratiquement aussi gros que YouTube. Pour te placer le contexte, hein.
Ah ouais, ça, ouais. C'est là où j'ai c'est quand Dailymotion a coulé en fait, quasiment que je suis arrivé quoi. Quand, en fait tous les mecs qui étaient genre tu vois le Velcro sont passés sur YouTube. À ce moment-là, je suis arrivé donc
ouais, c'est ça,
vraiment
c'est
genre
au moment où tout le monde a commencé à passer sur YouTube donc effectivement
ah ouais, totalement. Donc du coup, c'est pour ça que je suis passé totalement à côté de tout un tas de trucs. Et quand vous m'en parlez, genre ça a l'air fou mais bon, je ne peux plus aller voir.
Voilà. Bah, c'est t'imagines en c'est exactement le enfin c'est ça quoi, c'est tu t'as un speedrun à heure de grande écoute à la télé. C'est aujourd'hui ça peut te paraître banal parce que finalement t'as de l'e-sport qui est diffusé sur ESPN
ouais,
US.
Et encore, ouais, mais pas, c'est parce pas que pareil. Le speedrun, c'est encore quelque chose à part.
C'est
ouais, voilà,
c'est encore
exactement.
Une discipline à part,
le speedrun, je trouve ça sur YouTube, sur YouTube, sur Internet, le speedrun, c'est peut-être au-dessus de l'e-sport. Je dis peut-être des conneries.
Oui,
mais
c'est
je
des conneries.
En termes, non, mais en termes de comment dire, d'audience générale, si tu veux.
Non, l'e-sport, c'est largement au-dessus.
Attends, ah bon,
c'est largement au-dessus.
Ok.
En fait, l'e-sport, ils ont repris tous les codes du sport à la télé. Donc avec tout ce qui est commentateur, tu regardes un match de Street Fighter commenté par Ken Bogart, le mec t'a dit je commente ça comme si je commentais du catch. Et ça met aussi une certaine ambiance que si tu regardais le match tout seul, parfois tu t'embêterais un petit peu, surtout si tu connaissais pas.
Bah le truc c'est que je disais ça parce que je pense que l'e-sport est très concentré sur des événements à côté du speedrun qui fait peut-être de plus petits. Enfin, qui fait de plus petites audiences, mais sur énormément de vidéos, tu vois. Parce qu'il y a le jeu de tout le monde.
C'est pas évident. Va regarder les. Enfin, si tu veux faire un petit truc, va regarder les archives de Speed Game. Et tu vas voir que les mecs font moins de 100 000 vues par vidéo sur YouTube. Et qu'ils en faisaient moins de 20 ou 25 000 par vue sur jeuxvideo.com à l'époque où c'était diffusé là-bas. Le speedrun, ça concerne, ça intéresse des
gens. Ça reste une niche.
Ça reste un truc super niche. À part la Awesome Game Done Quick, et encore, parce que ça fait des audiences qui sont très largement en dessous des événements de Second Zone.
Surtout qu'en fait, eux, c'est pas tant l'audience que les dons qui comptent, quoi, pour eux. Mm. Parce que la Awesome Game Done Quick, c'est pas un truc que tu vas regarder en continu parce que c'est long, c'est sur 24 sur 24, et puis je t'intéresse pas, quoi.
Après tu peux le laisser en fond et puis c'est le genre de truc effectivement que tu laisses en fond puis que tu rattrapes quand il y a un jeu qui t'intéresse, mais bref, on était pas là pour discuter de ça. Mecton, tu avais deux ou trois anecdotes dont tu voulais nous raconter. On va pas avoir le temps de les
faire
toutes,
je pense,
mais...
qu'une.
Mais balance dans une ou deux, même n'hésite pas,
ma découverte de la chaîne. Je suis à la fac tranquille chez moi tout seul le soir, je viens d'arriver dans une ville que je ne connais pas, j'installe ma Freebox nouvellement livrée. Je la branche et là on me demande de rentrer un mot de passe pour le contenu adulte. Bref, machinalement je tape 1, 2, 3. Je suis pas du tout dans le champ de saisie du mot de passe. Je tombe sur une chaîne, No Life. Ils avaient eu l'idée de génie de se caler sur le canal 1, 2, 3.
Très très bon.
Ouais. Et donc ce soir-là, je suis tombé sur une soirée spéciale Megaman, donc qui avait été grandement préparée par le docteur Lacave. Mec, si un jour si tu nous écoutes, dis-moi où tu trouves tes cravates, je veux les mêmes, quoi. Pareil, j'ai bloqué là-dessus, j'ai pas décroché du truc. Donc, c'était une soirée spéciale qui prenait la série Megaman par tous les bouts possibles. Donc des numéros d'oscillation, excellente émission sur la musique de jeu, là du coup spécial sur Megaman, des speedruns de mecs qui se tapaient des jeux entiers, donc en mode speedrun, puis je vais essayer de finir le jeu sans me faire toucher une seule fois, et ça passait. Tout ça entrecoupé par des interludes où t'as les présentateurs qui faisaient des trucs mais débiles sur un plateau, t'as l'impression que c'était filmé dans la chambre de tes potes, quoi.
Je pense que c'était peut-être en grande partie filmé dans la chambre de leur chambre.
J'en sais rien.
C'est pas impossible.
J'en sais rien, mais du coup, t'avais ce sentiment de proximité où tu avais l'impression que, tu avais des gens, enfin, qui avaient les mêmes passions que toi, qui en parlaient avec respect, tout en étant à l'écoute d'avis contraires, tout ça, sans jamais. Enfin, ils bossaient avec sérieux, sans jamais se prendre au sérieux. Et toujours à l'écoute d'une critique. Alors, critique constructive, les trolls, ils avaient tendance à les dégommer, mais. De manière assez rock'n'roll d'ailleurs. Et d'ailleurs, ils voulaient faire une espèce de super play sur le forum de la chaîne. C'était si tu voyais un troll qui balançait un fion, mais vraiment évident. L'objectif du super play, c'était que le mec ait zéro réponse.
Objectif accompli une fois, me semble-t-il.
Je sais plus.
Bob qui a annoncé justement le.
Je sais plus.
Que c'est bon, ils avaient réussi à faire ce qu'il fallait.
Mais voilà. Ça c'était ma découverte de la chaîne.
Et du coup t'as mis quoi comme mot de passe pour le contenu adulte?
1, 2, 3, 4, pourquoi? Comme tout le monde, non? Ah, il y a peut-être 000, je me ferais moins chier. Bref. Je me rappelle dans les jours suivants discuter avec des potes à la fac tu entends les gens parler de cette chaîne, donc qui... C'était un peu le truc honteux encore, la culture geek à l'époque. On n'osait pas trop dire je m'intéresse à la culture Jap, aux jeux, aux comics, au ciné un peu underground. Et dès que tu entendais quelqu'un qui en parlait, tu échangeais en disant tiens, est-ce que tu as vu l'émission machin? Boum, tu pouvais être sûr que dans les 5 minutes, t'avais un pote, quoi. que dire d'autre
Est-ce que tu avais une autre éventuellement anecdote un peu rigolote?
Non, alors anecdote non, mais on en parlait en off, il faut que je la balance.
Vas-y.
Cette idée géniale qui a dû leur casser les couilles pendant des années. Si vous tombez encore sur la chaîne, donc est diffusée jusque dimanche a priori, regardez bien le logo de la chaîne. Donc le nouveau logo, hein, No Life c'était mieux avant, les vrais comprendront. Le logo de la chaîne, donc le N, souligne le titre de la chaîne. Je fais plein de gestes avec mes mains, je sais pas pourquoi je fais ça, c'est de la radio.
C'est de la radio. Parce que malheureusement, nous n'avons pas les moyens de faire de la télé.
Ouais. Mais voilà, en fait, ce sentiment qu'on avait, c'est exactement comme si nous, là, à Dojo Bar, on se disait, tiens, on monte une chaîne et on parle de ce qu'on aime, mais à la télé, quoi. Bref.
Ce qu'on pourrait faire, et oui, non, Poisson d'Avril, à deux fois la même semaine, comme on vous a possédé.
Donc le N de No Life souligne la totalité du logo, et en fait, si vous regardez bien, c'est un bar graph. C'est-à-dire, vous tombez sur une émission, au début, la barre est absolument pas remplie. Non, personne dit barre, vous êtes fatigué, bon bref. Et elle se remplit progressivement, et quand l'émission est terminée, le logo est complètement souligné. Donc si on tombe sur une émission qui nous intéresse pas, on sait à peu près de combien de temps elle va durer. Et a priori, ce truc-là, donc pour faire les rendus vidéo avant de les uploader dans les playlists, ce truc-là leur a cassé les couilles un bon moment.
Mais ils ont même créé leur propre programme qui s'appelait Logo Life, qui allait réincruster le logo sur l'émission et qui donc allait réencoder l'intégralité de l'émission à chaque fois qu'il y avait besoin d'insérer un logo dedans. Qui est quand même... Enfin, tu te rends compte que c'est vraiment c'est un sacerdoce. C'est-à-dire, pour aller faire un détail comme ça, les mecs se cassaient les couilles pendant
génial,
des heures.
C'est génial. C'est génial. Et je me rappelle, voilà, je finis là-dessus, discuter pendant des bonnes heures en cours d'info à la fac de l'émission Compiler, qui était juste top, quoi. C'était de la vulgarisation de concept informatique et programmation. Et c'est en regardant cette émission que je me disais, ok, je me suis pas planté de filière, je vais en faire mon métier, j'adore ça.
Et voilà. Vous voyez comme on a fait des vocations. Je suis sûr que voilà. En plus, ça a dû créer des vocations, ce genre d'émission.
Ah, mais il y a moyen.
Parce que c'est vraiment de la vulgarisation, c'est pratiquement... Eh ben oui, Jamy. D'ailleurs, bref, on va pas évoquer toutes les émissions, parce que sinon on va y avoir pour longtemps. Est-ce que Zergy a une petite anecdote, éventuellement, avec No Life?
Aucune, j'ai jamais regardé. J'ai jamais eu la télé par ADSL.
Bah en même temps, moi non plus. Enfin, moi j'ai arrêté la télévision par ADSL et j'ai pris un abonnement à Noco, tu vois, après, parce que je me suis dit bon.
Alors explique vite fait ce que c'est, peut-être.
Noco, c'était. Enfin, No Life Online à l'origine, qui est devenu Noco après. C'était à l'origine un service de vidéo à la demande qui était sur un site web. C'est-à-dire, l'idée c'était de dire, bah, pour que la chaîne survive, comme les revenus publicitaires ne suffisent pas, et que Ankama, qui avait été partenaire de la chaîne en disant bah, « nous, on veut bien réinjecter du pognon dedans pour qu'il fasse une saison 2, voire une saison 3 », a dit « bon, ben, le problème, c'est que nous, on n'a pas, pas le chéquier du patron
non plus ». Mais pas, putain, la soirée de la fausse fin de la chaîne. Enfin, bref, vas-y.
Oui, il y en a eu énormément des trucs comme ça. C'est à chaque fois des idées à la con, ils en ont eu beaucoup plus que nous, ce qui est quand même assez impressionnant, sur une existence plus courte en plus. Donc, chapeau bas, messieurs.
On a eu, c'est ça, à plein temps.
donc Ankama a dit à un moment bah nous c'est plus possible, et donc No Life a dit bah voilà, le seul moyen qu'on a pour survivre c'est de faire contribuer les gens. Donc transformer la chaîne en chaîne APH, c'était hors de question. L'objectif de la chaîne, c'était la sérendipité, c'est-à-dire tous les gens qui sont tombés sur No Life sont tombés sur No Life quasiment par hasard.
1, 2,
les deux anecdotes voilà qu'on vient de vous raconter sont vraiment symptomatiques de ça. C'est vraiment quand on tombe dessus par hasard, quasiment par hasard, ou en bouche à oreille, enfin voilà, c'est quand même très compliqué d'arriver à tomber dessus autrement. Mais pour survivre, on a besoin de pognon. Donc ce qu'ils proposaient, c'était de la VOD, en fait, un peu avant l'heure. Et de dire, bah voilà, vous payez un abonnement qui est 2€ par mois. C'était la formule de base dans laquelle tu avais les 12 derniers mois d'émission qui étaient disponibles. Ou 5€ par mois, voire plus si tu es en abonnement soutien. C'est-à-dire si tu disais, bah, je veux bien mettre un peu plus de pognon sur la table.
Tu fais un don au passage.
Tu fais une espèce de don au passage. Et là, j'ai accès à toutes les archives, et donc tu pouvais regarder l'intégralité des émissions qui ont été diffusées sur la chaîne, 100% des émissions diffusées sur la chaîne, en VOD, un contenu total qui est estimé aujourd'hui à environ 10 à 12 tera, octets de données, sachant que c'est du 720p ou du 480i, je crois. Mais 576i.
Tout depuis 2007.
Tout depuis 2007.
Pour 5 balles.
Pour 5 balles, par mois. Sachant que ils ont été très gentils parce qu'ils ont fourni une API pour qu'on puisse les télécharger sans faire chier le monde. C'est-à-dire que c'est pas bah, l'objectif, voilà, c'était de dire vous payez, vous faites vivre la chaîne, il n'y a pas de raison que vous puissiez pas le télécharger et le garder pour vous, même si vous êtes plus abonné derrière. Après tout, ça, ça a une certaine logique.
Ah mais attends, quand tu payes 5,99, t'as accès constamment
même, 5, même 4,99, enfin c'est oui. pas 4,99, c'est 5 tourons.
5 non, tourons, mais... et t'as accès même quand à l'intégralité abonné... du... T'as l'accès à l'intégralité du catalogue pour un mois.
Ah oui, d'accord.
Mais par tu contre, peux télécharger.
Et oui, genre, ouf.
Bah,
incroyable.
Normal.
Enfin, c'est ouf. Non,
normal.
C'est ouf. Alors...
Bah,
c'est de la passion geek.
C'est de la passion, quoi. Les mecs. D'ailleurs, là, il y a une petite communauté des anciens, enfin, des anciens du forum. Encore des anciens du forum, mais ça va pas tarder. Du forum de NoLive qui est en train d'essayer de faire un backup de Noco, donc le au service de vidéo à la demande, parce que on ne sait pas exactement ce que vont devenir toutes ces vidéos, tout ce contenu. T'as quand même 11
patrimoine,
ans
dis-le.
De, non, mais il faut le dire, c'est du patrimoine. Je suis désolé, il y a des émissions qui là-dedans qui sont du patrimoine. T'as des gens qui ont été interviewés qui sont morts depuis. T'as effectivement des émissions de vulgarisation que mes enfants pourraient regarder. T'as des émissions comme Retro and Magic où t'as quand même combien 490 numéros dédiés à des jeux vidéo ou à des séries de jeux vidéo qui ont plus de 20 ans. Et moi, je suis désolé, c'est une des dernières émissions avec sur YouTube GameSack, qui est une émission anglophone. C'est une des dernières émissions sur le rétro gaming où j'arrivais encore à découvrir des jeux. Parce qu'il y a tout un pan de jeux sur micro-ordinateur et tout, qui est une culture qui m'échappe, mais alors totalement.
Mais ouais, je trouve ça intéressant leur système d'abonnement, parce que enfin, justement, je voyais qu'on arrivait de la fin, on n'abordait pas. Moi, c'est peut-être le truc que j'ai le plus retenu de NoLive, c'est qu'ils ont fait un système d'abonnement comme ça, qui finalement est assez proche de ce qu'on peut trouver avec les modèles premium actuels de nombreux sites de presse, enfin, que ce soit Le Monde pour du généraliste ou Gamekult pour du... très spécialisé.
Mediapart et ainsi de suite. Ouais.
Voilà, il y a c'est un modèle qui finalement maintenant est très utilisé dans la presse française, en tout cas dans la presse web française. Et je trouve que c'est assez intéressant en fait qu'il fasse partie des choses qu'il aborde en premier. Et je pense que ça les aidait à tenir quelques années de plus.
Clairement.
Parce qu'à l'époque où ils l'ont lancé, ils étaient clairement à deux doigts de mettre la clé sous la porte.
Mais tu avais accès à tu avais accès à un graphe sur le site, tu avais un lien qui te donnait le graphe de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'on a.
Comme pognon, tu veux dire ?
Ouais.
Il ressemblait presque à un Patreon, comme on peut le voir à l'heure actuelle pour de nombreux youtubeurs d'ailleurs.
Il balançait pas des chiffres clairs et nets parce que Seb Ruchet disait en fait tu soignes quand même un minimum ta communication, quoi. Tu es transparent, mais tu vas pas te foutre dans la merde non plus si jamais t'as un investisseur qui vient pour négocier pognon. Mais tu savais à tout moment, ok, on tient un mois de plus, ou putain, ça va être la merde.
Ben oui, c'est de ce point de vue-là, il y a effectivement une très grande transparence, et comme tu l'as expliqué, une transparence, mais sans se trahir non plus. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas de dire, bah écoutez, on a 4,50€ sur le compte en banque, donc ça va être la merde. Non, c'était de dire, là, on peut financer deux semaines de production. En gros, l'idée, c'était ça. C'était de dire, on a une avance de tant de semaines de production devant nous. Ce qui est, à mon avis, pas une mauvaise façon de faire. Ça permettait effectivement de donner une idée aux gens de la visibilité, de la trésorerie finalement de NoLive, sans donner les vrais chiffres. Ce qui n'est pas inintéressant. Mais voilà, ce modèle-là, d'espèce de site premium qui te permet d'aller soutenir et d'accéder aux archives, c'est quand même un truc assez énorme. Moi, ça m'a permis d'aller revoir tout un tas d'émissions qui n'étaient plus forcément diffusées à l'antenne parce que bah, les rythmes de diffusion font que les mecs peuvent pas rediffuser les tout premiers Retro and Magic et les tout premiers Hidden Palace indéfiniment. De temps en temps, ils vont aller faire une grosse rediff de deux ou trois, mais voilà, fallait choper la chaîne au bon moment, c'était pas toujours si évident que ça. Et là, ça permettait vraiment, et aussi, ça permettait vraiment de récupérer ça. Et aussi pour tous les gens qui n'avaient plus la télé par ADSL ou qui habitaient en Belgique ou qui habitaient au Canada ou qui n'avaient pas la chance d'avoir la télé là où ils étaient ou qui avaient opté pour d'autres types de forfaits parce que les gens, le triple play, ça a quand même périclité aux alentours de 2012. Les gens commençaient à en avoir un peu marre et à ne plus forcément prendre la télé, ça leur permettait de continuer à accéder à la chaîne sans être obligé de passer par le canal télévision avec cette hyper calendarité où t'étais obligé d'être là à 19h pour suivre 101%. Ben non, tu pouvais regarder 101% à 22h si t'avais envie.
Sachant au passage que certaines émissions étaient diffusées sur Twitch, donc toutes les derniers talk shows qu'ils faisaient en direct, Whale Talk Show qui s'appelait en mode normal, après tu as eu en mode easy, donc tout ça était en direct sur Twitch, donc tu pouvais réagir avec ton émission en direct, mais vraiment du vrai pur direct quoi. Il y a certains moments où c'était la question des spectateurs, bon bah voilà, tu posais ta question, t'avais une chance qu'elle passe à l'antenne.
C'était et puis cool. De temps en temps c'était la gaffe du caméraman et voilà, elle passait en direct parce
ouais,
que...
avec le running gag du quiconque faisait une gaffe sur cette chaîne devait passer à l'antenne avec un casque de poisson dégueulasse.
Oui, c'est un des grands running gags.
Ouais.
Je sais pas
et
si.
Molotov, ça a été une des premières chaînes à participer à ce truc.
Ouais. Je sais pas si on pourrait terminer cette émission peut-être par un conseil de regardure.
Ah, mais ça aussi.
Parce qu'il y a. Je pense que. Alors, si ça te dérange pas, Mecton, je vais commencer parce que je pense qu'on est les deux plus bavards sur cette émission.
Ah, mais je pourrais tenir des heures, je crois. Franchement, les mecs, je vous aimais. Franchement, bravo pour tout ce que vous avez fait.
On vous aime toujours. Si vous voulez venir parler dans le dojo bar de votre expérience, on vous accueille à bras ouverts. Je vais donner deux ou trois conseils de regardure, c'est-à-dire des choses qui valent, à mon avis, le coup d'être vues. Je n'aime pas les RPG. J'ai pourtant tous les numéros de XP, parce que je trouve que l'émission était particulièrement bien gaulée, avec de l'humour de qualité, des émissions spéciales plus que d'habitude. Et de l'humour de merde, mais moi qui me fait mourir de rire. Et je devrais donner un spécial thanks, en mode celle sur celle-là, vous avez bien géré, parce qu'il y avait tout, il y avait les blagues racistes, il y avait vraiment l'intégralité de tout ce que faisait EXP, c'est-à-dire de la merde, mais de la bonne. L'émission, je crois l'émission numéro 32, qui était genre de décembre 2012, quelque chose comme ça. J'ai revérifié tout à l'heure dans mes petites archives à moi pour voir ce que c'était, où il y a eu un best-of de toutes les conneries qu'ils ont fait dans l'année. Et j'ai piqué un fou rire juste en le re-regardant parce que, mais tu vois que les mecs en ont vraiment mais rien à foutre. C'est vraiment du sketch qui déroule au kilomètre en mode de toute façon on s'amuse, si ça nous fait rire ça fera rire les gens, puis si ça fait pas rire les gens c'est pas grave, ce sera malaisant et ça les fera rire quand même. Et il y a une espèce de best-of de toutes les conneries qu'ils ont faites durant l'année et excellente émission. Regardez là, Mecton, si tu as un petit conseil de regardure, j'en donnerai un petit deuxième après.
Oh, j'en ai tellement. Bah, toute la série des oscillations, si vous aimez la musique de jeu. Mais toutes les conneries de Médoc. Quoi dire ? Ouais, s'il y a une émission classée 18+, où il explique, enfin, il fait un test de Dark Souls, et c'était à mourir de rire, quoi. Il finit en PLS dans une baignoire, quoi. C'était beau, quoi. Big Bug Hunter aussi, c'était bon.
Big Bug Hunter, excellente émission. Ça, c'est le genre d'émission qui est presque un concept à YouTube. C'est vraiment un truc. D'ailleurs, Son of a Glitch le fait toutes les semaines en anglais, malheureusement.
Ouais.
Enfin, malheureusement pour les gens qui ne sont pas anglophones. Mais en beaucoup moins drôle. Mais c'est vrai que Big Bug Hunter est une émission très. Je vais donner deux autres conseils de regardure. Very Hard, qui était une émission qui a été réalisée en collaboration avec l'association MO5, qui fait de la préservation du patrimoine vidéoludique et informatique en France, et qui collabore notamment au musée du jeu vidéo à La Défense, alors qu'il n'est peut-être plus à La Défense maintenant, il faudrait vérifier. J'ai un petit doute.
C'est pas celui qui était en haut de la Grande Arche ?
C'est ça.
Oui, bah alors l'ascenseur a été cassé, je sais pas s'ils l'ont conservé du coup.
Je sais pas s'ils ont conservé le truc, mais en tout cas...
je sais même pas si l'ascenseur est réparé.
MO5, il y a une trentaine d'émissions qui durent 5 minutes, qui sont à chaque fois dédiées à une console, mais c'est jamais l'aspect que vous attendez réellement. ce qui est quand même assez drôle, c'est à chaque fois l'émission démarre en disant « voilà, la PlayStation, la console de Sony qui fait ci, qui fait mi », mais c'est pas du tout de ça dont on va parler, de tel aspect de la console, et c'est un truc encore super spécifique sur la puce machin, comment elle a été gaulée, qui c'est qui l'a créée, ainsi de suite. Excellente émission. Mecton ?
Oui, Jean Glisse 2, donc tout le travail de Florent Gorge, pareil, que j'ai découvert à travers cette chaîne, donc historien du jeu vidéo qui sort énormément de bouquins chez Omake Books en ce moment.
Parce que c'est sa boîte.
C'est sa boîte d'ailleurs, t'as raison. Le Hard Corner de Benzaï, qui a gagné énormément en visibilité en passant sur la chaîne. Toute la série Noob et compagnie. Et comment l'oublier, Mange mon geek.
Putain, cette émission de gaudriole où l'on fanfaronne à tout va.
On fait de la cuisine geekou. C'était...
Non, c'était de la pas vraiment cuisine avec des gags de merde de poulpe dans sa cuisine de merde de son studio. C'était Jackass rencontre une émission de cuisine et rencontre un montage MTV dégueulasse, mais qui passe putain de bien, quoi.
Ouais.
Évidemment que c'était bien, chérie.
Si vous aimez le jeu de rôle, il y avait 1D6 qui était excellent, la web-série Noob, enfin, il y a tellement de trucs, quoi.
Et puis, je crois qu'ils ont diffusé des hentai aussi.
Alors, j'aimerais faire un petit... 1, 2, 3. Un petit... shout-out sur un tout petit truc, un truc dont on n'a pas vraiment parlé. Une des premières à la télévision française aussi, c'était d'arriver à diffuser des jeux 18+, parce qu'il faut savoir qu'en France, le CSA dit, les jeux qui sont 18+, doivent passer en horaire 16+ télévision, c'est-à-dire le dimanche soir à partir de 23h.
Bah, les pubs, alors ?
Les pubs pour les jeux 18+, ne passent que le soir à partir de 22h30, 23h.
Sérieux ? J'ai jamais remarqué.
Eh ben, n'as jamais remarqué, mais c'est la réalité. Et donc, pour pouvoir montrer une critique de jeu 18+, les règles du CSA font qu'il fallait absolument caler une émission dans un créneau 16+, donc le créneau du film érotique de M6. pour les gens qui ont que nous, hein, les vieux de la vieille. quand on était petits, on avait rien d'autre, les gars.
Alors, les musiques que vous entendez aujourd'hui dans les ascenseurs, on les a connues autrement, nous.
Voilà, c'est dans d'autres circonstances. il faut savoir que donc ils ont lancé la première émission consacrée aux jeux 18+, et ça a été les premiers à diffuser des critiques de jeux 18+ à la télévision, ce que ne faisait pas Game One, en profitant de ce créneau 16+ qu'autorise la télévision française, donc en allant demander au CSA un créneau 16+ pour le dimanche soir. Bel exploit, une émission qui était de fort bonne facture, même si, qui avait un peu le format d'un EXP, c'est-à-dire finalement avec une partie news, une partie critique, une partie interview, une partie dossier, et ainsi de suite. Donc c'était une émission finalement très classique, mais qui était consacrée à des jeux pour adultes, avec notamment une rubrique qui s'appelait Showtime, qui est une rubrique dégueulasse, dans laquelle Médoc allait prendre un jeu hentai quelconque.
Un jeu flash à la con.
Voilà, le jeu flash à la con, dans lequel il y avait 3 boobs, et qui faisait une critique extrêmement professionnelle, pas du tout préparée. Enfin, en tout cas, qui avait l'air d'être pas du tout préparée, mais qui devait quand même l'être un minimum pour mettre des gags dedans.
Showtime,
j'ai l'intégralité, je suis très fier d'avoir l'intégralité de Showtime, c'est vraiment dégueulasse, mais c'est tout ce qu'on aime.
C-H-A-U-D, hein.
Voilà, c'était une émission consacrée à... C'est là notamment que j'ai découvert un jeu japonais exceptionnel dans lequel, en fait, une jeune fille courte vêtue éclate au katana des bouteilles de lait et se retrouve couverte de lait après.
Ah, c'est sensuel.
Niquez-vous, c'était vraiment... C'était que des dégueulasseries de ce genre-là. Et voilà, c'est le genre de truc qui, moi, me fait triper. Et ça, c'est le genre de truc qui va me manquer parce que... vraiment, c'était très bon. Je vais donner une petite dernière émission qui à mon avis vaut le coup d'être vue. Si vous aimez bien, attendez, je vais essayer de retrouver le titre exact parce que
pendant ce temps, je salue le geste de D-Bex. Donc oui, parce que la chaîne balançait des animes un peu en simulcast. Kids on Slope, pour le coup, super série par les mecs qui ont fait Cowboy Bebop. Donc je l'ai découvert sur cette chaîne. Et donc D-Bex, éditeur vidéo, pour la dernière semaine de la chaîne, ils ont dit bon bah on était copains depuis le début, vous allez mourir. La dernière saison de Fullmetal Panic, tenez, ça fait un épisode par soir jusque dimanche, amusez-vous bien.
Bon, c'est vrai qu'il date quand même des années 2000. Hein.
Non, mais pour le coup, c'est la nouvelle série, la dernière. Là.
Donc c'est quand même la classe.
Yep.
Donc je vais donner deux autres émissions, enfin, une autre émission qui vaut vraiment le coup. Si on devait en garder qu'une seule, celle-là, faut vraiment aller la voir. Collector's Quest de Florent Gorge. La première saison de Collector's Quest, il y a 8 émissions de 10 minutes environ. Et Florent Gorge fait le tour des collectionneurs Nintendo complètement tarés en Europe. Et on voit des choses absolument exceptionnelles. C'est là que j'ai une collection qui est pas modeste du tout. Mais je suis un nain de jardin à côté de ces mecs-là.
C'est dans celui-là qu'on a vu le mec qui récupérait les bandes d'arcade ?
Il y a le mec qui récupère les bandes d'arcade, il y a le gars qui collectionne tous les objets liés à Nintendo avant qu'il fasse du jeu vidéo. Le gars a des exemplaires, il a dans les 10 derniers exemplaires des premiers jeux Hanafuda faits par Nintendo. C'est des objets qui ont une valeur inestimable aux yeux de fans de Nintendo. C'est le truc que j'oserais même pas regarder de peur de l'abîmer, quoi. Et les mecs ont été filmer ça. Et notamment, il y a un mec, je crois que c'est en Hollande, qui a je sais pas combien de dizaines de bornes d'arcade Nintendo dans un bateau, parce que c'est la Hollande. Et notamment, un des exemplaires d'un des jeux perdus d'arcade de Nintendo qui a été construit à base de la borne Donkey Kong, qui s'appelle je sais plus comment, et qui en fait est disponible à très 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 peu d'exemplaires. Il y a 3 exemplaires connus dans le monde. Il y en a un qui est en Europe, Florent Gorge a été le voir.
C'est pas Radarscope ?
Je crois que c'est Radarscope. Non, c'est pas Radarscope, c'est un autre truc. J'ai plus le titre en tête, mais je voilà, si je revoyais l'émission, je pourrais vous le dire, mais là, j'ai pas.
Ah non, non, Radarscope, c'est l'inverse. C'est lui qui a donné Donkey Kong.
C'est lui qui a donné Donkey Kong, donc c'est un jeu qui a été adapté de Donkey Kong et qui, effectivement, n'a jamais ressorti autrement. Bon, bref. C'est... Vous avez des morceaux d'histoire exceptionnels, et Florent Gorge a été voir ces gens-là, et ça fait des émissions qui sont... Enfin, qui coupent le... Quand vous êtes fan de Nintendo, c'est déjà... C'est assez... assez émouvant à voir, parce que vous avez vraiment des objets qui font partie de l'histoire de cette boîte, voilà. Et vous avez ces collectionneurs qui vous parlent de comment ils les ont récupérés, comment ils se sont fait un réseau de potes pour arriver finalement à récupérer ça, comment ils ont galéré, et ainsi de suite, des vrais passionnés. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel, et voir de toute façon des passionnés parler de leur passion, c'est toujours quelque chose qui est assez jouissif à voir. Voilà. On va arrêter cette émission-là, parce que sinon on va tous se mettre à chialer comme des patates.
Putain, ouais. C'est pas pour toi, hein.
Bon, je suis désolé pour les blasés qui n'ont pas connu.
Non, mais ils se rendent pas compte. Sans cette chaîne, ouais, je pense que la scène française YouTube, elle serait arrivée un peu plus tard, mais elle serait pas là aujourd'hui.
Et elle serait composée essentiellement de Julien Chiez et de machin peu ça, la Farge.
Ça serait
Pokémon.
Triste.
David Lafarge Pokémon, voilà.
Non, pas David Lafarge. Tu touches pas David Lafarge. J'ai grandi avec lui.
Oh mon dieu!
Bah, c'est bien, il est célibataire, tente ta chance, hein!
Merci Zerg.
Oh, j'ai retrouvé l'image du casque poisson,
non. Oh oui, il y avait un numéro de Showtime absolument hallucinant, mais si vous pouvez regarder Showtime, c'est la dernière, je vous promets, c'est la dernière. Où en fait, ils avaient testé un mode grosse bite pour Skyrim.
Hein?
Je crois.
Voilà, rôle 34!
Quand les mecs étaient à poil, ils avaient des grosses. Et donc, comme ils n'avaient pas le droit de montrer de tub, enfin. Je pense qu'ils avaient le droit de le montrer, mais que ça les amusait pas. Ils avaient mis une photo de Sébastien Ruchet avec un petit panneau écrit non chaque fois qu'il y avait une tub à l'écran. Juste exceptionnel. Voilà, il y a un côté. Là, tu vois, c'est l'autodérision poussée jusqu'au bout du bout du bout du bout du bout. Et j'ai envie d'évoquer une dernière anecdote qui est Médoc et Moguri, donc la section jeux vidéo EXP, la rédac jeux vidéo en fait avec Thierry Falcoz. avait fait un bout d'émission qui s'appelait 100% légal, où pendant 12 jours avant Noël, ils avaient fait tous les jours une émission de 2 minutes avec un gag de merde. Enfin, c'était un gag de merde, un ou deux gags de merde, avec un générique qui durait plus longtemps que l'émission, avec un générique qui avait été modifié pour mettre, merde, comment il s'appelle, le Black.
Ah putain, le Black, je sais plus.
J'ai plus le nom en tête, mais c'est pas grave. Le blague du role-playing gang qui s'appelle limite le blague du role-playing gang et qui voilà qui avait dit mais c'est pas normal que j'y sois pas, et du coup ils avaient fait un générique où il y avait que lui et qui mangeait du poulet et enfin bref le truc était voilà, non mais c'était tellement second degré. Et donc ils avaient fait une émission où Sébastien Ruchet débarquait dans le bureau et pointait Moguri du doigt en disant virer, et pointait Médoc du doigt en disant virer, et en fait au moment où ils se sont vraiment fait virer, parce que c'était un peu obligatoire, sur Twitter, ils ont balancé le gif, vous avez viré, parce qu'il fallait bien la faire.
Ouais.
Bref.
Voilà, toujours avec sérieux, sans jamais se prendre au sérieux.
C'est ça, avec sérieux, sans jamais se prendre au sérieux. On pourrait éventuellement aussi évoquer le Hall of Shame, enfin plein d'autres émissions qui sont assez exceptionnelles. Bon, si vous êtes un peu malin... Vous pourrez probablement arriver à retrouver ça sur des sites de téléchargement pas très légaux. Jusqu'à présent, on les trouvait pas parce que les gens avaient un minimum de respect. Là maintenant, fonction de qui va racheter le catalogue de No Life, parce qu'il y a bien quelqu'un qui va le racheter, j'espère que ce sera la petite association qui est en train de se monter qui va essayer de racheter le catalogue pour le mettre en libre de droit.
Allez voir sur leur forum, le plus tous possible. Les liens y sont.
Allez voir sur le forum si vous voulez essayer d'adhérer pour essayer d'enchérir sur le fait que... Parce qu'un commissaire-priseur va forcément mettre en vente le catalogue.
Et alors, si pour le coup, c'est vraiment des téléspectateurs qui montent tout ça. Le staff de la chaîne y est pour rien du tout.
Le staff de la chaîne n'a pas le droit d'intervenir, sinon ce serait un délit de banqueroute. Donc ils n'ont pas le droit d'intervenir, ils n'ont pas le droit de participer à ça. Ils ont éventuellement peut-être le droit d'enchérir sur denier personnel, mais je ne suis même pas sûr.
J'en sais rien.
Parce que ce serait considéré comme du délit de banqueroute. Donc... Voilà, c'est très compliqué. Par contre, là, c'est vraiment effectivement des téléspectateurs qui sont en train de se mobiliser pour essayer de voir s'ils peuvent sauver le catalogue de Noël, sachant qu'ils pourront pas tout sauver parce qu'effectivement, il y a des collaborations, il y a des choses qui ont été faites par d'autres boîtes de production. Mais il y a peut-être une petite partie du catalogue qui pourrait, de ce patrimoine-là, qui pourrait peut-être être libéré ou en accès libre sur un PeerTube qui serait hébergé par, par cette association-là.
Sirer va le racheter.
Sirer pourrait le racheter.
S'il te plaît,
il va venir avec son gros zizi, il va les impressionner et tu vas voir.
Ça va, je suis sûr que ça va marcher. Bon, bref, cette émission a duré beaucoup trop longtemps.
Marcus m'a fait pleurer.
Désolé.
Putain.
Non, mais faut pas dire ça. Moi, je veux pas regarder cette émission parce que j'ai pas envie de voir ça.
Ouais. Non, j'ai vraiment eu la gorge serrée. Tu verras les dernières images.
Je vais peut-être aller la regarder quand même parce que voilà. Bon, No Life, on vous a bien kiffé. Vous nous
ouais,
avez
merci
fait
pour
bien
tous les
kiffé.
Temps.
Merci pour ces 11 ans. Quoi qu'il arrive, merci. Et j'espère qu'on retrouvera une partie de la rédaction dans d'autres aventures. Kevin Sicuriel, alias Moguri, et Mehdi, je me souviens plus de son nom de famille.
Médoc.
Médoc et le Médoc. Ont un petit podcast qui marche pas trop mal, qui s'appelle Cozy Corner, si vous voulez y jeter une oreille. Alors je vous préviens, si vous ne supportez pas Moguri et Médoc et leur humour de merde, ça va être très compliqué parce que là, comme ils sont que tous les deux, c'est très compliqué.
Ils supportent le nôtre, ça va.
Voilà, non mais si vous supportez le nôtre, ça devrait aller. Voilà, Médoc et Moguri ont un podcast qui fait toutes les deux semaines, qui dure 2h30, quelque chose comme ça. Je sais pas s'ils en vivent. Je ne pense pas.
Non, mais là, voilà, là, tu as la vraie définition de la passion, hein. Coucou Julien.
Ah putain, fatigue. Voilà, nous, on vous dit à la semaine prochaine. On est désolé d'avoir fait une émission un peu nostalgico, tristo.
Mélancolique.
Mélancolique.
Ça me donne envie de tout découvrir, vous êtes relou.
Mais écoute.
Mais t'as le temps, Galaxy.
Je te partagerai mes backups personnels parce
et
que
si,
nous sommes
si
de la
y a
même
moyen
famille,
d'avoir 2-3 émissions. Hein.
Je vais peut-être partager quelques trucs à des gens très très en privé parce que j'ai pas envie que ça déborde trop.
Non, alors pour le coup, voilà, les gens qui font les backups, ils font pas les cons parce que tant que le truc est pas liquidé officiellement, c'est un coup à foutre la merde.
Et même une fois qu'il est liquidé officiellement, il y a forcément quelqu'un qui va racheter le catalogue. Je pense que les gens qui font les backups pour vraiment des questions de conservation de patrimoine, c'est-à-dire pour être sûr qu'il y ait aucune émission qui soit perdue. Et j'espère sincèrement que ça sera conservé dans un coin par des passionnés de manière responsable. Parce que je sais pas si ce sera archivé par l'INA.
Qu'est-ce qu'ils foutent l'INA, ouais.
Je ne sais pas.
Le ministère de la Culture, numérique, tout ça.
Je ne sais pas.
Vous êtes où, les gens? Ah, putain.
T'es dans le boulot de. Sérieusement, genre, c'est là. Ils peuvent archiver ce genre de trucs?
Théoriquement, oui, mais je ne sais pas sous quelle modalité. Voilà. En théorie, les gardiens des archives nationales de la télévision, c'est l'INA. Maintenant, qu'est-ce qu'ils gardent et dans quelles conditions, je n'en ai aucune idée.
T'as archivé la TNT et la DSL, ça doit être chaud.
Bah, c'est de plus en plus chaud, mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même des passionnés qui le font.
Oui.
Toujours pareil. Mais c'est un peu comme les gens qui sont en train de... Enfin, les gens qui ont commencé à faire des backups de tout Louisware, en se disant, bah, ça va disparaître, donc il faut en garder une archive quelque part. Alors, c'est pas légal, oui, mais si on compte sur la légalité, ce sera jamais sauvegardé.
Donc, non, quand tu vois le nombre de merde qui traîne sur YouTube, ça me ferait chier que le catalogue complet disparaisse.
Ben, si vous avez un abonnement Noco ou si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours aller vous abonner à Noco. Vous mettez un abonnement soutien à 7€ par mois. Alors oui, il ne durera pas un mois, il durera 15 jours. Mais vous pourrez aller regarder autant d'émissions que vous voulez. Vous pourrez peut-être découvrir des trucs intéressants. Et en mettant 7€, vous allez peut-être aider à ce que la dette que No Life doit éponger soit un petit peu moins dure à éponger. Et que ça se fasse pas sur bien personnel, parce que malheureusement, ça peut se finir comme ça aussi. Donc, quoi qu'il arrive, même si vous mettez juste 5€ dans le jukebox, c'est pas grand-chose. Ça vous permet d'aller découvrir des trucs, de redécouvrir des trucs, d'aller re-regarder des émissions que vous avez vues il y a très longtemps. Le site est un peu surchargé à cause du backup des fans, mais malheureusement, bah, il faut bien effectivement qu'il y ait des gens qui s'y mettent. Mais voilà, si vous avez la possibilité d'aller remettre un tout petit peu de thunes dedans, ça vous coûte pas grand-chose. C'est un paquet de clopes. Eux, ça peut leur permettre d'adoucir un petit peu l'atterrissage et potentiellement vous allez découvrir des choses très bien. Et je vous dis, avec deux ou trois programmes qui sont faits pour ça, il y a une API qui est faite pour ça, vous pouvez même aller les télécharger, les enregistrer sur votre disque si vous voulez. Ça, c'est légal. En tout cas, ils laissent la possibilité de le faire, donc je suppose que c'est légal. Si c'est personnel, si c'est votre copie personnelle, voilà. S'il y a des choses qui vous intéressent vraiment, s'il y a des sujets qui vous intéressent vraiment, ben, moi je vous encouragerai à le faire. Je sais pas si c'est légal, mais... Bon, on s'en fout un peu, là, maintenant.
Dans l'immédiat, ouais.
Dans l'immédiat, l'important, c'est d'arriver à garder tout ça. Bref.
La passion.
Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Je suis désolé d'avoir été un peu long. Je ne sais pas quel sera le sujet de l'émission. Probablement un sujet de merde. Peut-être un sujet rétro. Peut-être.
All right.
Peut-être. Youpi. Parce que... Il y a des gens qui ont parlé de Billy Hatcher, et oui ça m'a donné deux ou trois idées. Donc, voilà, on va en discuter en off entre nous.
Et merde.
On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Merci de nous avoir écoutés, désolé d'avoir un peu été larmoyant. Voilà, ciao tout le monde, à la semaine prochaine.
Salut, merci, merci tout le monde, merci.
Salut.